Afin de passer au cours de la prédication, j'ai eu l'occasion d'attirer un peu notre attention sur notre regard sur Israël. On avait rappelé des choses fondamentales, rappelé que le regard sur Israël est parfois bien biaisé par le passé de l'Église. Normalement, notamment, on avait remplacé le fameux principe de la substitution qui avait été mis en place par l'Église catholique, l'Église chrétienne dès le commencement à peu près, et on s'est rappelé à cette position que nous avions à avoir, le principe de réciprocité par rapport aux événements qu'on entend, et aussi notre identité chrétienne qui se trouve dans un Jésus-Christ qui, à la Samaritaine, a dit « nous, les Juifs, moi, je suis Juif ». On a rappelé que Christ, même dans l'éternité, se fait appeler Lion de Juda. Il reste Juda, membre de la tribu des Juifs. On avait rappelé que, à cause de ça, Jésus dit à la Samaritaine, le salut vient des Juifs, oui, sans Juifs, sans ancêtres, sans prophètes, sans les patriarches, sans la parole de Dieu, sans Jésus-Christ, pas de salut. Et on avait rappelé que cela devait aiguiser notre sensibilité en étant reconnaissant par rapport à l'héritage que nous avions en la nation juive. On avait bien dit qu'on ne faisait pas de politique, que ça n'avait rien à voir, mais on s'intéressait au texte sacré qui nous disait de prier pour la paix, de prier pour la paix du monde, parce que de la paix de Jérusalem découle la paix du monde, et on avait rappelé que nous étions là pour exciter le peuple d'Israël à accepter le Messie. Et que nous étions là aussi pour être reconnaissants par des témoignages à apporter au peuple d'Israël. Ça, c'était en gros. Il y a eu beaucoup de réactions après le culte à la suite de ces choses. Et la prédication d'aujourd'hui, j'aurais voulu peut-être, parce que j'avais cité un certain nombre d'exemples qui, dans le principe de réciprocité, faisaient référence à des injustices qui étaient commises par rapport au peuple chrétien aujourd'hui, par rapport aux nations chrétiennes aujourd'hui. Et j'ai vu que beaucoup étaient très très sensibles à ce qu'ils lisaient, à ce qu'ils entendaient à propos des persécutions chrétiennes, évidemment. Et dans les propos, les échanges, j'ai entendu que il y avait une volonté de réagir, ce qui est bien sûr tout à fait sain. Mais il y avait aussi parfois un sentiment de c'est le méchant qui gagne. C'est le méchant qui gagne aujourd'hui. Le peuple de Dieu est là et il souffre. Et il y a des persécutions, il y a des massacres, il y a des gens qui sont mis à mort pour leur foi. C'est le méchant qui gagne. Et c'est vrai que, en tant que chrétien, ce sont des questions que nous sommes tout à fait libres d'aborder. Comment se fait-il que le méchant gagne? Et j'aurais voulu qu'on puisse justement, parce que c'est sérieux, ça se focalise pas seulement sur le conflit israël-palestinien, le conflit qu'il y a aujourd'hui entre l'islam et des communautés chrétiennes qui sont persécutées. Quoique, Malaisie, les chrétiens perdent le droit d'utiliser le mot Allah. Les chrétiens peuvent même plus dire Allah, c'est interdit ça pour eux. J'ai vu que le représentant de l'islam a dit en arabe au Vatican il n'y a pas longtemps « Donne-nous la victoire sur les infidèles ». Il y a eu ces appels à la prière que vous connaissez, les chrétiens massacrés par centaines en ce moment en Irak, au Kenya, le Shebab qui exécute 48 chrétiens parce qu'ils n'abjurent pas de leur foi. Au Pakistan, ça fait 5 années de persécution intensive, et maintenant les chrétiens peuvent même plus quitter le pays au Pakistan. Et donc ça continue, quoique. Mais comment réagissons-nous quand nous voyons le mal qui gagne, ou qui semble gagner? Il y a quelques textes qui sont vraiment très intéressants dans la parole sur le sujet. Vous connaissez sans doute ce psaume d'un psalmiste qui s'appelle Asaph, qui était un musicien, qui était compositeur à la cour du roi David. C'est le psaume 73. Avant d'aller plus loin, on va le lire si vous voulez bien. On va lire jusqu'au verset 24. Quelqu'un nous le lit ?
Oui, je vais vous conseiller. Quand vous y réfléchissez, ne pas être sur le point de vous dire.
Oui, merci Marius, puis tu me recevras dans la gloire. Pourquoi les méchants s'en tirent bien? C'est vrai, c'est frustrant, quoi. Par rapport à ceux qui disent, moi, je crois au principe que nous a enseigné Jésus-Christ. Je crois à l'honnêteté, je crois à la douceur, je crois à l'amour, je crois à la patience. C'est frustrant de voir que tout autour de nous, c'est le méchant qui l'emporte souvent. Celui qui crie le plus fort, celui qui est le plus violent, celui qui avec son argent peut acheter les autres. C'est vrai, ça crève les yeux, ça se passe comme ça. Vous les jeunes étudiants, ceux qui ont malheureusement 1, 2, 3 examens de passage, vous avez vécu ces réalités. Vous avez fait votre possible, vous croyez avoir fait ce que vous deviez, vous n'avez pas eu trop de chance, vous avez eu des questions auxquelles vous ne saviez pas trop répondre, et puis voilà, c'est l'échec. Et puis vous avez à côté de vous des condisciples, vous savez qu'ils ne sont pas plus futs que vous, ils ne sont certainement pas plus travaillés que vous, mais vous savez comment ils sentirent, ils ont leur filon, ils ont leur combine, ils ont leur petit copion, et eux ils ont réussi. Pourquoi? Pourquoi c'est celui qui quitte l'intégrité, qui réussit, qui gagne? Pourquoi? Vous savez ça en tant qu'adulte. Vous avez essayé dans votre couple d'élever vos enfants dans la conception chrétienne, avec les valeurs chrétiennes. Et puis, j'ai entendu le témoignage d'un pasteur qui a 3 garçons homosexuels. Il a 3 fils et ses 3 fils sont homosexuels. Comment? Mais il faut pas faire. Oh! Mais comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce qu'après avoir inculqué des principes, on se retrouve à voir que c'est pas le normal qui gagne? Comment est-ce qu'on gère que on voit qu'on a donné ces principes et puis ça se passe pas bien dans nos familles et puis ça déraille complètement et puis les relations familiales sont cassées et puis on voit nos enfants dans la misère, dans les problèmes parce qu'ils ont fait de mauvais choix et qu'on voit à côté de ça des gens qui n'ont rien à foutre du Seigneur. Comme dans le texte qu'on lit ici, ils rient de Dieu, ils rient de ses bêtises. Et chez eux, tout baigne. Ça se passe bien. La famille va bien. Les enfants ont des beaux diplômes. Ils font des beaux couples. Ils font des belles familles. Tout baigne. Comment est-ce que l'on gère ça? Le texte que nous venons de lire est terrible. Il est terrible, je trouve, parce qu'il a 2 phases. Mais dans sa première phase, il est terrible. Et j'aime ces textes-là. J'aime les psaumes parce que les psaumes sont divinement inspirés. C'est Dieu qui inspire les psaumes. Mais les psaumes sont des hommes qui ouvrent leur cœur en entier, sans rien cacher. Il y a quelqu'un ici ce matin qui oserait se lever et dire « Moi, j'ai quelque chose à dire. Je voudrais savoir comment il se fait que les méchants gagnent toujours et que moi je suis croyant en vain. C'est marqué. En vain. Je dis donc, en vain j'ai cru. Les méchants s'en sortent et moi j'ai cru en vain. Qui oserait se lever ici ce matin et dire, j'ai quelque chose à dire, je l'ai sur le cœur. Moi j'ai cru en vain. J'ai cru dans les principes de Dieu, j'ai cru dans le Seigneur, mais j'ai cru en vain. Ce sont les méchants qui gagnent et c'est pas moi qui gagne. C'est les méchants qui sont bénis et pas moi qui suis béni. Qui oserait dire ça ce matin? Moi j'aime ces textes parce qu'ils sont le cœur ouvert de l'homme qui parle. Et ce que nous dit dans la première partie Asaph est tellement violent. En fait, ce qu'il dit c'est, mais à quoi ça sert de croire? À quoi ça sert de croire finalement? Est-ce que ceux qui ont dit que la religion c'est l'opium du peuple, est-ce qu'ils n'avaient pas raison finalement? À quoi ça sert de croire? C'est ce qu'il dit, la question qu'il pose dans la première partie. J'ai vu les autres, les méchants autour de moi, et j'ai été jaloux. Verset 3, j'étais jaloux. Rentrons dans ce cœur ouvert de Asaph ici, du psalmiste. Il commence, oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Non, il ne faut pas reprendre, Jacob, parce que je vais reprendre des textes un peu partout comme ça dedans, donc on va s'en mêler aussi, non. Et, il est bon pour Israël, et tous ceux qui ont le cœur pur. C'est son point de départ. C'est normal, c'est quelqu'un qui écrit des psaumes pour David, c'est quelqu'un qui passe sa vie à louer le Seigneur. Et pourtant, très vite, ça change. Pourtant, il s'en est fallu de peu que mes pieds ne trébuchent. Un rien de plus, et je tombais. Qui ose ce matin se lever ici et dire, vous savez mes amis, moi il s'en est fallu de peu, encore un peu je quittais l'église, j'en avais plus rien à faire avec ces histoires-là. Il ose dire ça. Encore un peu je tombais. Waouh, ça m'intéresse. Et qu'est-ce qui l'a fait tomber? 10 versets. Qu'est-ce qui allait le faire tomber? 10 versets. J'ai vu les méchants autour de moi. Tout leur réussit. C'est extraordinaire. Tout marche bien dans leur vie. Ils sont riches. Ils peuvent se moquer de Dieu. Leurs enfants vont bien. Ils ont de l'embonpoint. Ils sont jamais malades. En fait, ce qu'il a vu, c'est que les méchants autour de lui vont mieux que beaucoup de croyants. Il y a des croyants malades. Et ces méchants-là, ils sont en bonne santé. Il y a des croyants qui sont dans la misère. Et ces méchants-là, ils sont riches. Il y a des croyants qui ont des problèmes terribles familiaux. Et ces gens-là, ils n'ont pas de problèmes familiaux. Et Salomon a une conclusion. La première, c'est au verset 13, je vous le lis. Alors, c'est donc en vain que je suis resté pur, que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. En vain. Le mot est tombé, mes amis. C'est grave, en vain. Ça veut dire, à quoi ça sert de croire? En fait, quand on lit ça, on voit que c'est une chose qui nous arrive, n'est-ce pas? On a l'impression que parce que nous appartenons au peuple de Dieu, parce que nous mettons notre confiance en Jésus-Christ, on a l'impression que d'office nous est due une sorte de dividende. Et on a l'impression que d'office nous est due une bénédiction spéciale. On a l'impression que on devrait plus avoir dans tous les domaines de vie que les gens qui méprisent Dieu. C'est donc en vain que j'ai cru. Alors, Asaph a commencé à réfléchir. Et avant de voir le résultat de sa réflexion, je voudrais quand même faire deux remarques. La première, c'est une remarque qui nous mine lorsque nous commençons à être comme lui, jaloux de ce que nous voyons autour de nous. Vous avez tous des amis comme ça qui ne sont pas du tout croyants, mais chez qui ça va bien, ça va super bien. Pourtant, quand vous parlez un peu avec eux, que vous creusez un peu les choses, vous vous rendez compte que ça ne va pas si bien que ça. À mon épouse, elle me dit toujours, si on levait les toits des maisons, on verrait qu'il y a beaucoup de façades jolies et beaucoup de saloperies à l'intérieur. Et c'est vrai. La première remarque que je veux faire, c'est que lorsque nous commençons à nous laisser influencer par ce que nous voyons autour de nous, on devient plus du tout impartial. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la description qu'il fait des gens riches, c'est une description qui n'existe pas. Il dit quelque part, il ne leur arrive jamais rien. C'est une description qui n'existe pas. Il n'y a aucune vie comme ça. Ils sont exempts de souffrance jusqu'à leur mort. Qui est exempt de souffrance jusqu'à sa mort? Ils passent à côté de toutes les peines que tous les autres hommes subissent, et eux, ils ne subissent aucun mot. Quel est l'homme qui ne subit aucun mal? Ils sortent d'arrogance comme on porte un collier. Ils ont les yeux, etc., etc. On dirait que la manière dont ils voient les méchants, c'est que c'est des gens, il leur arrive jamais rien. Tout est magnifique dans leur vie. C'est une fausse vision. Et c'est la première remarque que je voudrais faire. Souvent, quand nous nous plaçons dans cette situation, on commence à s'installer à dire comment ça se fait que c'est le méchant qui gagne? Comment ça se fait que le peuple de Dieu est opprimé aujourd'hui comme ça et que le méchant gagne? Ou comment ça se fait que c'est l'injustice qui gagne? Quand on commence à se mettre dans ce positionnement-là, il faut faire attention à notre vision. Parce que souvent, elle devient déformante. Et là, c'est nous-mêmes qui commençons à voir des choses qui n'existent plus, comme c'est le cas ici d'Azaph. Mais une deuxième remarque, avant de passer à sa réflexion, c'est ce que je lis dans le verset 15. Il dit que lui, il reçoit des coups tous les jours, qu'il est châtié tout le temps, qu'il est resté avec les mains pures, mais qu'il a plein de problèmes. Et au verset 15, il dit, « Si je disais, parlons comme eux, alors je trahirais tes fils. » C'est la deuxième remarque que je veux faire. C'est extraordinaire. Asaph fait ce constat. Il est au fond d'un trou. Il est profondément découragé de ce constat. Mais il ne renie pas ce à quoi il croit. Il ne renie pas celui en qui il croit. Si je disais parlons comme eux ou faisons comme eux, c'est la même chose, alors je trahirais tes fils. Et ça, je ne le fais pas. Je reste ton enfant. Je reste avec ceux qui sont tes enfants. Je ne veux pas te trahir. Et ça, je pense, mes amis, que quel que soit le regard que nous avons sur, par exemple, la réussite des méchants et notre échec à nous, notre échec personnel, si nous avons vécu une rencontre avec Christ, si nous avons vraiment un jour été touchés par la grâce de Christ, si jamais ça nous est arrivé, alors je pense que nous aurons toujours et nous pourrons toujours faire le constat que fait ici Asaph. J'ai dit parlons comme eux, mais je ne l'ai pas fait. Parce que je n'ai pas voulu trahir tes fils et trahir la parenté que j'avais avec toi. C'est un peu ce qui s'est passé lorsque Jésus parlait de choses un peu dures et compliquées avec des gens. Il parlait de son corps, qu'il fallait manger sa chair et tout ça. C'était compliqué. Il y en a qui ont dit, ouh, tes paroles sont dures. Et ils sont partis. Et le Seigneur s'est tourné vers les disciples. Et alors, aux disciples, il a dit, vous aussi, vous allez vous en aller? Vous aussi, vous allez me laisser parce que mes paroles sont dures? Et eux, ils ont dit, la parole que m'avait lue, ça a cité là tantôt dans sa prière. Simon-Pierre s'est levé et il a dit, Seigneur Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? À qui irions-nous? C'est le deuxième constat que je fais ici. Pour cet homme, d'une part, sa vision est déformée parce qu'il croit que le méchant gagne toujours. Faisons attention à la déformation de nos visions. Et deuxièmement, ça l'a pas fait changer d'avis. Il n'a pas changé de bord. Donc, il reste, le psalmiste reste du même côté, il reste dans le même bord, mais il réfléchit. Il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit. C'est ce qui nous est dit. Je me suis mis à réfléchir, j'ai cherché à comprendre, mais je trouvais tout cela beaucoup trop injuste. En fait, il comprend pas. Il a beau réfléchir avec sa tête humaine, il comprend pas. Si tu réfléchis avec ta tête humaine, pourquoi les chrétiens sont massacrés, tu comprendras pas. Si tu réfléchis avec ta tête humaine, pourquoi il y a des victimes innocentes, des petits-enfants qui sont massacrés, tu comprendras pas. Tu n'auras jamais une explication à donner à ça. Jamais. Alors, première leçon. Il est rentré dans le sanctuaire. Il est rentré dans le lieu saint. Il est rentré dans la rencontre avec le Seigneur. C'est plus sa tête qui a réfléchi. Sa tête a réfléchi en la présence de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Vous avez vécu, n'est-ce pas, de ces moments? Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Des choses qui sont en train de détruire une partie de votre vie. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Et vous ne comprenez pas. Et puis, dans la présence de Dieu, là, subitement, le Saint-Esprit vous donne un éclairage totalement différent sur les choses. C'est ce qui se passe ici. C'est ce qui se passe. Il a réfléchi de manière inutile jusqu'à ce que, verset 17, jusqu'au jour où je suis entré dans la maison de Dieu et j'ai réfléchi au sort qui attend les méchants. En fait, subitement, il a arrêté de regarder les méchants qui étaient mieux que lui, qui étaient plus bénis que lui, et par le Saint-Esprit, il lui a été donné de réfléchir au sort des méchants plus tard. En fait, on pourrait dire que le Saint-Esprit lui a dit, Asaph, regarde un petit peu plus loin que le bout de ton nez. Asaph, regarde à la fin des choses. La Bible nous invite toujours à regarder à la fin des choses. C'est pour ça qu'elle nous dit que large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit et sinueux est celui qui mène à la vie éternelle. Elle nous amène toujours à considérer les choses de maintenant en fonction de leur fin, en fonction de la finitude. Et c'est ce que l'Esprit fait révéler ici à Asaph. Il lui dit, considère la fin des méchants. Et on a vu ces textes, tout va se terminer. En l'espace d'un instant, en l'espace d'un éclair, leur vie, leur richesse, tout sera ruiné à tout jamais. Dieu fera justice. Dieu va s'occuper du sort des méchants. Un jour, c'est arrêté. Ça se produira. Mais regarde plus loin que le bout de ton nez. Asaph, l'histoire n'est pas finie. Le film n'est pas terminé. Le film continue jusqu'au mot fin. L'histoire continue jusqu'au mot fin. Et là, le Seigneur agira. Deuxième leçon qui est faite à Asaph. Subitement, Asaph, verset 21 et les suivants, dit « J'avais le cœur amer, j'étais tourmenté, j'étais arrogant, je me comportais comme une bête avec toi. » Il parle de sa relation avec Dieu. Et puis verset 23, « Mais je suis toujours avec toi et tu m'as saisi la main droite. » Selon ton plan, tu me conduis. Wow. Deuxième révélation que l'Esprit fait à Asaph. Il se rend compte qu'il a été bête, qu'il s'est comporté de manière idiote avec le Seigneur. Et surtout, il réalise que contrairement aux méchants, il n'est jamais seul. Il a gardé la main du Seigneur, mais surtout, toi, tu as gardé ta main, ma main dans la tienne. Et tu m'as conduit selon tes plans. Asaph se rend compte que dans les circonstances qui lui ont paru injustes au moment, il y a une réalité qu'il n'avait ignorée, qu'il oubliait, c'est que le Seigneur était toujours là, qu'il tenait sa main comme il tenait la main de lui, et qu'il le conduisait selon ses plans dans la vie qu'il vit. Et subitement, c'est la deuxième bénédiction qui lui est faite, c'est de reprendre conscience que quelles que soient les circonstances, le Seigneur maîtrise tout et conduit selon son plan la vie d'Asaph, ou la tienne, ou la mienne. Et troisième révélation qui lui est faite et qui est une bénédiction, c'est que la manière dont le Seigneur le conduit en lui prenant la main, c'est la deuxième partie du verset 24, « Puis tu me prendras dans ta gloire ». Le contraste et la différence est faite par rapport à la ruine du méchant qui est programmé, arrêté à un temps donné, et à la gloire qui lui est réservée lorsque le Seigneur le prendra dans sa gloire. C'est une facette de la réponse de Dieu à « Pourquoi les méchants s'en sortent-ils bien ?» Hein, on l'a vu. Change ton regard, parce que ce n'est pas si évident que ça. Et puis, reste fidèle. Et là, rentre en présence dans le sanctuaire de Dieu. Et le sanctuaire de Dieu, la présence de l'Esprit, va te révéler des choses. Va te révéler des choses à propos du sort des méchants, à propos de ton sort, et à propos de ta marche avec le Seigneur, si tu continues à être à l'écoute de la voix, de l'enseignement, des choses qu'il te montre. Mais je pense qu'il y a eu plein de réponses, plein de facettes à tous ces hommes, ces croyants qui se sont dit « Pourquoi ce sont les méchants qui gagnent ?» Et je vais quand même pour compléter un peu, parce que en fonction des circonstances, la réponse qui est faite au psalmiste ici n'est pas nécessairement la facette qui convient aux autres circonstances. Si je suis cité deux autres facettes, deux autres personnages qui se sont confrontés à la même chose, qui ont dit à Dieu, pourquoi ce sont les méchants qui gagnent? Tu vas laisser gagner les méchants? Et la réponse de Dieu a été bien différente dans ces cas-là. Ainsi, le deuxième personnage qui a posé cette question à Dieu, c'est Habacuc. Et une réponse lui a été donnée. En fait, très courtement, il est prophète, ça va pas du tout en Juda. Juda va être détruit. Dieu a annoncé à Habacuc, prophète, qu'il devait annoncer à Juda que Juda va être détruit parce que c'est toujours la même chose. Il revit tout le temps l'idolâtrie, et il abandonne complètement l'Éternel. Donc les Chaldéens vont venir et ils vont détruire Jérusalem. Et alors il y a une interrogation de la part d'Habacuc qui va dire à Dieu, mais pourquoi tu vas permettre que c'est le méchant qui gagne? Habacuc va un peu dire à Dieu, mais donc, tu vas choisir un peuple méchant, un peuple guerrier, un peuple barbare qui va venir chez nous et qui va nous anéantir. Toi, ton peuple, c'est injuste. Un peuple si puissant qui va attaquer un peuple si fragile et en plus qui est ton peuple. Et Dieu va faire comprendre à Habacuc qu'il ne va pas se mettre du côté des Chaldéens. Il va simplement laisser le cours de l'histoire. Juda ne veut plus de Dieu, donc Dieu se retire. Mais c'est Dieu qui protège Juda. Les Chaldéens, c'est un peuple conquérant. Ben, Juda est là, ben, les Chaldéens vont conquérir Juda. C'est tout. C'est le cours de l'histoire. Dieu ne devient pas subitement le défenseur du méchant Chaldéen pour attaquer le peuple de Juda. Le cours de l'histoire suit. Et Dieu va faire une révélation extraordinaire à cette question et cette interrogation. Pourquoi tu vas laisser le méchant gagner contre ton peuple ? Il va lui dire, je ne vais pas laisser le méchant gagner contre mon peuple. Habacuc 2, verset 4, ce verset que nous connaissons bien. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste, lui, il vivra par la foi. La deuxième réponse qui nous est donnée, mes amis, lorsque nous sommes en train de nous dire, pourquoi ça va si bien chez le méchant et si mal chez moi ? C'est de nous souvenir que c'est la condition sine qua non. Ça marche toujours comme ça avec Dieu. Le parcours et la marche avec Dieu, c'est une relation de foi. C'est tout. Quand tu te poses cette question, souviens-toi de la réponse qui a été faite à Habacuc. Tu vois les circonstances? Ça paraît injuste, c'est le méchant qui gagne. Mais rappelle-toi une chose. Le juste, lui, il vivra par sa foi. Et puis, une réponse encore différente qui a été donnée dans le même contexte. Un autre prophète a dit exactement les mêmes choses que Asaph. C'est le prophète Jérémie, le grand prophète Jérémie, dans le chapitre 12, au verset 1. Il dit exactement les mêmes choses que ce que nous avons lu dans le psaume. Toi, tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Mais je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Hein, ça commence bien. Hein. Tu es trop juste pour que je conteste, mais je te dis quand même quelque chose sur tes jugements. Pourquoi la voix des méchants, elle est prospère? Et pourquoi tous ceux qui sont perfides, ils vivent en paix? Waouh! Et la réponse va être faite aussi, une réponse différente à Jérémie. C'est le même contexte. C'est les méchants qui gagnent? Tu voudrais avoir une vie différente, Jérémie? Tu voudrais que tu sois davantage béni, Jérémie? Ou que le peuple soit davantage béni, Jérémie? Et voici ce que Dieu va lui dire. Ça se trouve dans le verset suivant, le 12:5, voilà, un peu plus loin. C'est Dieu qui parle à Jérémie et qui lui dit, « Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, ben alors, comment est-ce que tu vas pouvoir lutter avec des chevaux, Jérémie ? Et si tu ne te crois pas en sûreté dans une contrée paisible, qu'est-ce que tu vas faire sur les rives orgueilleuses du Jourdain ?» Ça, c'est une réponse tout différente. Quand Jérémie dit, mais pourquoi c'est les autres, les méchants, qui sont puissants, et que nous, on est là? Dieu répond, il est temps de te bouger, Jérémie. Il est temps de prendre les armes, Jérémie. Il est temps de te lever. Parce que, si déjà parce que tu marches avec des gens, t'es déjà anéanti, comment tu vas faire quand tu vas courir avec des chevaux? Et si déjà dans ton peuple, tu te crois déjà très en danger, comment tu vas faire quand tu vas devoir être dans les flots bouillonnants là-bas au bord du Jourdain? La réponse qui est faite à notre interrogation là-bas a une toute autre facette. Peut-être il est temps de nous lever, de de réagir lorsque c'est le méchant qui gagne, mes amis. Et peut-être que parfois, voir le méchant qui gagne, ce sont des circonstances pour nous endurcir et pour nous préparer nous-mêmes au combat. Enfin, une dernière facette, peut-être la plus importante, me semble-t-il. Nous allons lire dans Matthieu 21, les versets 33 au verset 39. C'est Jésus qui parle. C'est une parabole qu'il donne. Cette parabole, il la donne parce que le Sanhédrin, l'autorité religieuse de l'époque, est contre lui. Il va bientôt l'accuser. Alors il dit quelque chose qui ne va pas tellement améliorer sa situation. Il raconte cette parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir, il bâtit une tour, et puis il afferma, donc il confia cette vigne à des vignerons, et il quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir les produits de sa vigne. Mais les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. Alors il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers. Et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier. » Alors venez, tuons-le, emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Bien sûr, les autorités religieuses juives ont compris ce que voulait dire Jésus. La vigne, c'est le peuple d'Israël, les vignerons, c'était l'autorité religieuse de l'époque, les serviteurs qui avaient été envoyés, c'était les prophètes, ceux qui ont tous été massacrés, mis à mort, c'était les prophètes, quand on envoyait encore plus de prophètes, ils ont encore été plus massacrés, alors Dieu lui-même a dit cette fois, j'envoie mon fils, et qu'est-ce qu'on a fait avec le fils? La même chose qu'avec les prophètes, il a aussi été massacré. C'était la manière de Jésus d'annoncer sa mort. C'était la manière de Jésus de dire quelque chose de terrible aux autorités religieuses. Mais, quand on lit cette histoire, on pourrait se dire, c'est le mal qui a gagné. Parce que Jésus avait bien prophétisé ce qui allait se passer, et effectivement, ça s'est passé comme ça, non seulement tous les prophètes ont été mis à mort ou ont été torturés, mais lui aussi a été mis à mort et a été crucifié. Pourtant, à la fin de cette histoire, un petit peu plus loin, dans le même chapitre, mais au verset 42, Jésus donne la conclusion et dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures que la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, elle est devenue la principale de l'angle ? C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à vos yeux. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, mes amis, que c'est un prodige à nos yeux, parce que, au départ, on se dit, mince, le mal a gagné. C'est le mal qui est victorieux. Ça s'est passé comme Jésus l'avait dit. On l'a mis à mort, c'est monstrueux. Il a été tué, il a été crucifié, comme les prophètes avant lui, tout ça est monstrueux. Le mal est puissant, c'est le mal qui est victorieux. On a beau même dire ce qui va se passer, le mal agit encore en conséquence. Et c'est lui qui a gagné, c'est lui qui a raison. Et pourtant faux, tout faux. Encore une fois, si on regarde la finitude, si on regarde à la fin de l'histoire, tout faux. Parce qu'en réalité, les autorités juives de l'époque ont cru que c'en était fini, que le problème était réglé avec Jésus. Il se met le bazar sans arrêt, c'est terminé maintenant. On revient dans notre tradition juive normale, judaïque normale, c'est fini avec ce Jésus. Et pourtant, ce qui a été fini, c'est quelques années plus tard, qu'avec Titus, Israël, Jérusalem a été complètement détruit et Israël complètement déporté. Alors que, quelques années plus tard, dans tout le monde civilisé de l'époque, l'annonce de l'évangile, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ s'est faite. Ainsi, cette parole était réalité. Les bâtisseurs avaient la pierre. Ils l'ont jeté, ils ont cru que le problème était réglé. Le mal a gagné, victoire! Et en fait, c'est cette pierre qui a été rejetée qui est devenue la pierre angulaire. C'est Jésus-Christ qui a gagné. Peut-être que ce matin, il est précieux de revoir un peu notre perception les événements. Qui gagne? Maintenant. Pourquoi? Puissions-nous faire comme le psalmiste à Asaph, nous trouver dans la présence du Seigneur. Être certain que nous voulons garder la main, dans la main que lui nous donne. Être certain que nous voulons continuer à nous laisser guider par son conseil, parce que les choses sont arrêtées, la fin est arrêtée. La fin des méchants est la rentrée dans la gloire pour ceux qui appartiennent au Seigneur.